sur le pont des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Peinture, photographie, cinéma, sculpture, musique. Dans l'actualité des arts, l'agenda de l'Académie des Beaux-Arts. L'émission sur le pont des arts du mois de mars 2012 braque ses micros sur l'actualité du dessin, de la musique, du cinéma et de la télévision. Paris accueille en effet du 28 mars au 2 avril différents salons qui font la part belle au dessin de certains membres de l'Académie des Beaux-Arts. Tout d'abord, le salon Drawing Now Paris, le salon du dessin contemporain, revient pour sa 6e édition au Carrousel du Louvre du jeudi 29 mars au dimanche 1er avril 2012. Vous pourrez visiter les stands de 82 galeries internationales qui présentent évidemment les œuvres des artistes qu'elles soutiennent. Le salon fait aussi l'événement en décernant un prix créé l'an dernier. Pour la deuxième année, le prix Drawing Now Paris sera remis à un artiste de moins de 50 ans, présenté justement en focus sur le stand d'une galerie. Le comité de sélection du salon dévoilera le nom du lauréat le mercredi 28 mars à 17h. L'an dernier, c'est l'artiste Catherine Mélin qui avait été récompensée. Drawing Now Paris présente cette année également un hors les murs et la galerie Samantha Selem expose au stand A30 de récents dessins de l'académicien Vladimir Velikovic. Tous ces derniers dessins datent tous de 2012. Il s'agit d'encre sur papier d'assez grand format, de 103 par 66 cm, et également sera présenté un très grand dessin intitulé Pitbull, jamais montré, un dessin de plus de 2 mètres. Pour ses habituels grands formats, Vladimir Velikovic a l'habitude de réunir plusieurs feuilles de papier pour parvenir à une seule surface. Et dans ses dessins, la part blanche du papier est généralement réduite au minimum. Les éléments de ses compositions explosent, le regard en un labyrinthe de corps déchiquetés, démembrés. Ses dessins sont chargés de ce qu'il appelle lui-même ses éclats d'imaginaire ou réellement vus. Cette année, en 2012, il abandonne la thématique des éléments floraux qu'il avait explorés dans ses dessins de 2010 et revient à cette figure animale, sorte de double carnassier de l'être humain en pleine course, symbole de la plus extrême des violences. Rappelons que pour l'artiste, l'essentiel est de comprendre que par le dessin, on peut communiquer absolument tout, la joie, la tristesse, le drame, le passé, le futur, la vie. La mort. Prouver que le dessin est avant tout portrait de soi-même, qu'il est capable de montrer beaucoup et de cacher peu. Ces dessins sont donc présentés auprès de ceux d'autres artistes, de Nebojša Bezanić, de Marcos Carrasquer, de Frédéric Arditi, de Barbara Tadem, tous soutenus par la galerie Samantha Selem à Paris et tous en lice pour le prix du dessin Drawing Now Paris. La semaine du dessin à Paris fait vivre la capitale au rythme de nombreuses manifestations entièrement dédiées au dessin à la fin du mois de mars depuis 13 ans. Paris s'est ainsi imposé comme un rendez-vous incontournable pour les collectionneurs et les amateurs de dessin, et ce, au niveau international. Dans le décor exceptionnel du Palais Brongniart se tient le Salon du dessin du 28 mars au 2 avril, un autre salon du dessin, où sont présentées cette année les plus belles feuilles des écoles françaises, italiennes, anglaises ou nordiques. Pour cette 21e édition, vous pourrez voir par exemple un lavis de Jean-Honoré Fragonard, une sanguine d'Antoine Watteau, une encre d'Andy Warhol ou encore une aquarelle de Zhao Wuqi, membre de l'Académie des Beaux-Arts, présentée par la galerie Berès. Et cette année, le salon accueille une sélection des plus beaux dessins du musée du Mont de Piété de Bergues. Il s'agit d'un fonds composé de plus de 1500 feuilles, réunies en grande partie par le peintre et restaurateur de tableaux Pierre-Antoine Verline, qui est mort en 1877. Et le fonds propose justement des feuilles de ses écoles italiennes, françaises, allemandes, flamandes, hollandaises, du 15e au 19e siècle, parmi lesquelles Poussin et Sebastiano del Piombo. L'autre partie de cette collection est axée sur les études de nu provenant de l'Académie d'Anvers. L'exposition au sein même du Salon du dessin de cet ensemble, jamais montré au public, est une première. Enfin, là aussi sera décerné un prix du dessin, Il s'agit du prix du dessin de la Fondation d'art contemporain Daniel et Florence Guerlain. Parmi les trois nominés cette année pour ce prix qui sera décerné le 29 mars, il y a Marc Bauer, Marcel Zama et Jrine Voix. Parmi les 29 galeries qui exposent au Palais de la Bourse dans le cadre du Salon du Dessin, 21 sont étrangères, parmi lesquelles la galerie Dietesheim, qui fait donc son entrée pour la première fois au Salon et qui soutient deux académiciens, Pierre-Édouard, le sculpteur Pierre-Édouard, et le graveur Éric Desmazières. Retrouvons pour l'instant le sculpteur Pierre-Édouard parler de ce que représente pour lui le dessin. Comment vous définissez-vous comme artiste ? On vous présente comme sculpteur, mais est-ce que c'est le premier mot qui vous viendrait à l'esprit pour vous définir ?
Alors, c'est un problème pas simple. Parce qu'effectivement, je ne sais pas trop ce que je suis. Je pense que si je suis quelque chose, je pense que ce serait dessinateur, justement. Je pense que j'aborde les choses par le dessin, principalement. Je ne pense pas être quelqu'un qui aborde les choses par la peinture, ni par la couleur. Je pense que j'aborde les choses, que ma nature première aborde les choses par le dessin. Et je crois que dans la sculpture, j'aborde les choses par le dessin. Je ne pense pas que je suis un sculpteur qui aborde les choses par la matière, comme il y a des sculpteurs qui abordent par la matière et la matière les conduit quelque part. Moi, la matière ne me conduit pas. La matière obéit. Enfin, je souhaite qu'elle obéisse plutôt. En sculpture, pour moi, la matière est comme un crayon, c'est-à-dire elle doit répondre exactement à ce que je veux faire. Elle doit être comme un outil malléable, flexible, que je peux effacer, à qui je peux faire tout ce que je veux. Et quel que soit l'outil que j'utilise, que ce soit dans la sculpture, dans la gravure, dans le dessin, j'ai besoin de ce même outil. En fait, c'est toujours le même outil dont j'ai besoin. C'est une sorte d'outil qui va me faire des clairs, des sombres, des plans qui s'articulent et que je vais pouvoir effacer à ma guise, parce que je travaille encore beaucoup plus en détruisant qu'en construisant. Donc, c'est un outil de dessin, tout ça. Et tout ça, pour moi, c'est quelque part le dessin. Ce qu'il y a, c'est que la sculpture, elle me permet de dessiner en trois dimensions. Mais je pense que je l'aborde vraiment comme un dessin. Donc, pour vous répondre à votre question, il me semble que ma nature première est quand même le dessin.
Comment vous expliqueriez à, on va dire, à un enfant qui vous demande qu'est-ce que c'est dessiner par rapport à sculpter ?
Ah bah, moi, je peux vous dire qu'est-ce que c'est pour moi. Ça ne veut pas dire que qu'est-ce que c'est le dessin. Moi, je sais que pour moi, le dessin, c'est articuler des plans dans l'espace selon des proportions. C'est ça.
Et sculpter ?
C'est pareil.
C'est la même chose.
C'est la même chose. C'est exactement pareil. Sauf qu'avec le dessin, on le fait en deux dimensions. Avec la sculpture, en trois. Mais c'est exactement le même...
Pour vous, c'est un outil similaire pour arriver à la vision qui est la vôtre,
exactement.
Ce que vous voulez
exactement.
Faire.
Et pour moi, le dessin, c'est on articule des clairs et des sombres.
Comme en sculpture. Pourtant, on a l'impression que c'est pas
sculpture. C'est-à-dire qu'en sculpture, vous pourriez trouver des sculpteurs qui articulent des formes.
Oui.
Moi, j'articule des clairs et des sombres. C'est pour ça que je vous dis aussi que je l'aborde par le dessin, quelque part. Parce que pour moi, la sculpture, c'est des clairs et des sombres. Donc, c'est du dessin, quelque part.
Pierre-Édouard, vous avez commencé par peindre et vous avez même hésité à sculpter. Pourquoi ?
Oui, j'avais dit à un moment que la sculpture, j'ai longtemps hésité à faire de la sculpture parce que j'étais rebuté par l'aspect matériel incarné de la forme sculptée, que c'était d'ailleurs une erreur de ma part parce que c'est pas plus incarné qu'un dessin. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup dans le dessin cette immatérialité. Et puis, il y a une chose qui compte beaucoup. Alors là, bon, moi, je peux vous parler que du dessin tel que moi, je le vis le dessin. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est le dessin. Le dessin, de toute manière, personne ne sait ce que c'est. Hein. Pour moi, le dessin, il y a une chose qui est très importante. C'est que, si vous voulez, le papier, la page blanche, c'est déjà un espace, une sorte d'espace infini comme ça. Et comme dans le dessin, vous ne couvrez pas la page. C'est-à-dire que vous tracez des choses, vous tracez des signes, mais vous ne peignez pas dessus, vous ne couvrez pas la luminosité du papier. Ce qui fait que tout ce que vous mettez sur la feuille de papier, c'est un peu comme de la poussière, si vous voulez. Ce sont des poussières. Le dessin, c'est des poussières qui se mettent sur le papier, qui vont, qui viennent. Mais vous avez en permanence, sous ces poussières, sous ces noirs, sous ces gris, vous avez cette lumière du papier qui crée une sorte de continuum. Donc vous avez une continuité de la lumière qui est à l'arrière-plan derrière. Et vos clairs et vos sombres masquent cette lumière qui est dessous. Ce sont des sortes d'écrans. Et pour moi, je sais que c'est une chose très importante, ce phénomène, parce que je suis dans le... Si vous voulez, chaque fois que j'essaye de couvrir cette lumière pour mettons un clair, là où il devrait y avoir un clair, tout d'un coup, tout mon espace est court-circuité et n'a plus de sens, parce que j'ai besoin que cette luminosité du fond soit là d'un bout à l'autre de l'œuvre, si vous voulez, et que les clairs et les sombres soient comme des vagues qui viennent, qui se posent dessus, qui naissent, qui meurent, qui... J'ai besoin que ça soit comme une sorte de mer qui bouge sans arrêt, mais qui est fluctuant, qui n'est pas figé. Et pour moi, la forme, c'est une des raisons pour lesquelles je me sens beaucoup plus dessinateur que peintre, c'est que la forme peinte, la forme incarnée par la peinture, c'est-à-dire modelée par la pâte, par la couleur, il y a une incarnation, il y a quelque chose qui est figé pour moi là-dedans, et j'ai besoin de cette sorte de mouvement qui ne cesse pas de se fluidifier comme ça, de bouger... qu'à le dessin sur le papier. Dans ce sens, je me sens dessinateur.
Est-ce que ça veut dire que le dessin apporte plus de liberté dans l'immédiateté ?
Non, c'est pareil.
C'est pareil.
Exactement pareil. Enfin, ça dépend des gens et ça dépend de... Les paramètres sont tellement innombrables que l'immédiateté, on la trouve là où on a envie.
Je veux dire, est-ce que les peintres sont sensibles à une approche de la lumière particulière et puis les sculpteurs à une autre et les dessinateurs à encore une autre recherche de la lumière. Mais vous avez l'air de dire que justement, pour vous, c'est pas le problème.
Non, moi je crois pas. De toute manière, je crois pas à la délimitation les peintres, les sculpteurs et les dessinateurs. Je pense que le monde plastique, il est un avec des applications diverses et des tempéraments différents qui sont plus portés à une chose qu'une autre. Mais le phénomène plastique, je pense qu'il est toujours exactement... C'est toujours ce phénomène plastique, c'est toujours... Et la lumière, chacun doit l'inventer comme il peut. Et l'inventer dans le dessin ou dans la peinture, c'est pareil. Sauf que moi, je vous dis, il y a cette grande différence que pour moi, j'ai besoin d'avoir cet espace blanc, enfin cet espace de lumière, a priori, avant même toute chose. Et pour moi, cet espace blanc de la feuille, il est identique à l'espace, c'est-à-dire au vide dans lequel nous vivons, pour la sculpture. C'est le même espace pour moi, c'est le vide premier. Et ce vide premier, je vais le meubler tantôt par la forme sculptée en trois dimensions, tantôt sur la page de dessin,
par
mes petits clairs et mes petits sombres. Pas par le trait, parce que
non, justement, c'est un mot que vous n'avez pas prononcé.
Mais non, parce que moi, je suis constitué de telle sorte que je suis incapable d'aborder une forme par le trait. Parce que... Incapable, mais plus qu'incapable, même. Je ne sais même pas ce que c'est. Ça n'a pas de sens. C'est peut-être parce que je suis cézannien dans l'âme, mais pour moi, tout ce que je cherche à faire est fait de plans. Et évidemment, le plan, là où il s'arrête, y aura peut-être une ligne. Mais en tout cas, je n'aborde jamais rien par une ligne. J'en suis incapable. Je ne les vois même pas.
Quels sont les dessins auxquels vous êtes particulièrement sensible et dont vous voudriez nous parler ? Quels dessins aimez-vous ?
J'aime beaucoup, par exemple, les petits dessins que Mondrian a fait comme étude pour ses tableaux, où il cherche, sur des tout petits formats, la proportion de ses tableaux. Il les cherchait en tout petit aussi, et puis le trait. On se rend bien compte là de ce que c'est que le dessin, c'est qu'en fait, il cherche sa ligne jamais mentalement. Il la cherche d'une manière totalement affective, totalement sensible, totalement vibrante. Et sa ligne n'est que l'aboutissement de ses espaces. Ce sont des espaces aussi qui sont vécus et qui adviennent de cette manière... C'est une géométrie de l'âme, c'est pas une géométrie mentale. C'est ça que j'aime bien dans le dessin. Et vous avez ça dans toute la manière dont Mondrian cherche ses formes, enfin ses espaces. Vous avez ça évidemment chez Cézanne, dans toutes les aquarelles de Cézanne aussi. Toutes ces choses, je les aime bien.
Vous pouvez découvrir les dessins de Pierre-Édouard sur le stand de la Galerie d'Ittesheim au Salon du Dessin qui se tient au Palais de la Bourse, le stand numéro 10, et c'est du 28 7 mars au 2 avril. La galerie d'Ittesheim participe aussi au pavillon des arts et du design, au Jardin des Tuileries à Paris, au stand de 55, où elle présente, justement, un accrochage d'artistes qu'elle défend, parmi lesquels Geneviève Haas, Giulio Camani, Gaston Chessac, Simon Edmondson, et elle présentera les sculptures de Germaine Richier et de Pierre-Édouard. Je rappelle simplement que les œuvres de Pierre-Édouard explorent le thème d'une figure féminine protectrice de forme allongée qui lui a été inspirée par l'ève de la cathédrale d'Autun. À la galerie d'Ittesheim, sur le stand du Salon du Dessin au Palais de la Bourse, seront également présentées des gravures inédites d'Éric Desmazières. Je vous invite par ailleurs à retrouver ces deux artistes dans les nombreuses interviews qu'ils nous ont accordées tous les deux sur notre antenne. Il suffit de taper leur nom dans le moteur de recherche sur la page d'accueil de Canal Académie. À l'attention des amateurs de dessin, vous pourrez retrouver d'ailleurs prochainement l'intégralité de cette interview sur le dessin vue par Pierre-Édouard et dont vous venez d'entendre un extrait. D'autres académiciens font aussi l'actualité. Le CD d'Edith Cana de Chizy, la première femme compositrice à entrer à l'Académie des Beaux-Arts, a été sélectionné par le Grand Prix lycéen des compositeurs. Du côté du cinéma, l'événement se déroulera à Quai Conti, le mercredi 28 mars. Jean-Jacques Haneau sera installé sous la coupole de l'Institut de France par son confrère Roman Polanski. Vous pourrez écouter sur Canal Académie la retransmission de cette cérémonie. À la télévision, les téléspectateurs ont pu voir sur France 2, mardi 20 mars, le dernier long métrage de Yann Arthus-Bertrand, « La soif de l'eau ». L'académicien attire notre attention sur le fait que 783 millions de personnes dans le monde, soit 11% de la population mondiale, n'a pas encore accès à l'eau potable. Pour son nouveau film « La soif du monde », il revient sur la consommation d'eau dans le monde en allant à la rencontre de femmes et d'hommes à travers le monde entier pour montrer combien nos agricultures et nos objets du quotidien, tels qu'un simple jean par exemple, sont aussi grands consommateurs d'eau. Le film « La soif du monde » a été également projeté au Forum mondial de l'eau à Marseille. Patrick de Carolis revient sur France 3 avec une nouvelle émission Le Grand Tour, une version contemporaine du fameux Grand Tour, ce voyage accompli par les jeunes gens de la haute société, mais aussi les artistes, les peintres et les écrivains dans l'Europe du XVIIIe et XIXe siècle pour parfaire à l'époque leur connaissance des arts, de l'antique et de l'histoire. Patrick de Carolis propose un grand tour, mais du XXIe siècle, la culture étant partout, le magazine abordera tous les continents. Pendant 2 heures, il conduira les spectateurs dans 3 ou 4 destinations différentes, avec des invités évidemment différents. Pour ce premier numéro, il part d'abord à Naples pour raconter l'histoire des castrats, en compagnie du contre-ténor Philippe Jaroussky. Puis il conduira les téléspectateurs sur l'île de Dilmun, de nos jours tout simplement Bahreïn, sur les traces de 2 mythes, celui du Jardin d'Éden et celui de l'immortalité incarné par Gilgamesh. De fil en aiguille, il atteindra l'Écosse pour évoquer l'histoire des clans et la culture celte, avec notamment une rencontre avec la chanteuse Nolwenn Leroy et l'écrivain Ian Rankin. Enfin, c'est le quartier de Broadway qu'il vous propose de découvrir, un quartier consacré au théâtre et à la comédie musicale avec l'actrice new-yorkaise Whoopi Goldberg et la comédienne française Barbara Schultz. Le Grand Tour est un film en soi avec un narrateur et de belles histoires autour des grandes pages culturelles de l'humanité. C'est donc à découvrir le 4 avril à 20h35 sur France 3. Parmi les expositions en cours dans l'actualité des arts, signalons l'exposition Berthe Morisot au musée Marmottan-Monet. Le musée Marmottan-Monet célèbre en effet Berthe Morisot, la plus célèbre des femmes impressionnistes, en organisant la première rétrospective de son œuvre, présentée à Paris depuis près d'un demi-siècle. Retrouvons au micro de Canal Académie Marianne Mathieu, commissaire de cette exposition et chargée des collections et de la communication du musée Marmottan-Manet à Paris, qui présente l'œuvre de cette femme peintre, artiste et mère de famille, morte prématurément à 54 ans en 1895. Le musée Marmottan-Manet à Paris, le temple de l'impressionnisme pour les musées de France, célèbre en ce moment Berthe Morisot, une grande peintre impressionniste, dans une exposition organisée du 8 mars au 1er juillet 2012, et c'est la première rétrospective consacrée à l'œuvre de cette femme peintre présentée à Paris depuis près d'un demi-siècle. Il y a à peu près 150 peintures, des pastels, des aquarelles, des dessins qui sont présentés, qui viennent du monde entier, des États-Unis, d'Europe, évidemment des collections du musée Marmottan-Manet. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie du commissaire Marianne Mathieu, qui est le directeur adjoint du musée Marmottan-Manet et commissaire de cette exposition. Bonjour madame.
Bonjour madame.
Alors, qu'est-ce qui caractérise la peinture de Berthe Morisot ?
Écoutez, Philippe Burti, qui était un critique, un fervent défenseur des impressionnistes, écrit que Berthe Morisot incarne l'impressionnisme par excellence. Et Berthe Morisot est un des représentants les plus notables, les plus illustres de ce mouvement. Et elle a su apporter des touches tout à fait personnelles, faire preuve d'originalité par rapport à ses confrères, et c'est ce que cette exposition essaie de montrer.
Alors, c'était quand même une femme particulièrement exceptionnelle par ses qualités de peintre, et reconnue parmi ses grands peintres que sont Degas, Renoir...
Elle était considérée par les impressionnistes eux-mêmes comme leur égale. Il n'y avait aucune discrimination. On ne portait pas sur elle un regard qui était un regard misogyne, par exemple. Ça n'était pas le cas.
On lui conférait même cette qualité d'artiste,
tout à fait, exceptionnelle. Tout à fait, et c'est Degas qui, en 1874, Berthe Morisot était encore jeune fille à l'époque, écrit donc à sa mère, à Marie Cornélie, en lui disant « Nous ne pouvons nous passer du talent de votre fille pour qu'elle figure à la première exposition impressionniste. »
Alors, elle a participé à tous les salons...
À toutes les expositions, expositions impressionnistes. À l'exception de celle qui suit la naissance de sa fille unique, Julie.
Elle est donc bien au cœur de l'impressionnisme,
oh, oui.
Mais... Est-ce qu'elle en est le moteur, l'initiatrice, l'accompagnatrice ? Comment se situe-t-elle dans ce groupe, justement ?
Elle est tout à fait au cœur de l'impressionnisme. On peut dire qu'elle est le membre, l'un des membres le plus fidèle du mouvement, puisqu'elle est une des rares à participer à toutes les expositions impressionnistes, à l'exception donc de cette fameuse exposition de 1879. Et puis elle en est aussi le mécène, quand c'est nécessaire. Berthe Morisot est une bourgeoise, une rentière, elle n'a pas de problème financier. Ce qui n'est pas le cas de nombreux autres de ses collègues, de Renoir, de Monet par exemple. Et donc quand il faut mettre la main au portefeuille, elle le fait, et à deux reprises, elle est également le mécène de ses expositions.
Est-ce que parmi les sujets qu'elle choisit, est-ce qu'elle trouve là un chemin particulier ? En quoi est-ce qu'elle se distingue, entre guillemets, de ces grands peintres qui l'accompagnent et qu'elle accompagne ?
Elle ne fait pas qu'accompagner ses grands peintres, elle est un grand peintre elle-même, elle est originale. Alors, qu'est-ce qui intéresse Berthe Morisot ? Berthe Morisot, en tout cas, quand elle expose pour la première fois aux impressionnistes, ce qui l'intéresse, c'est d'étudier une figure dans la nature. Voilà les termes qu'elle emploie. Elle veut représenter une figure dans la nature. Et évidemment, quelles sont les figures qui sont à sa disposition ? C'est une jeune femme, elle ne peut pas sortir seule. Lorsqu'elle va copier au Louvre, elle est chaperonnée par sa mère.
Ça a été sa formation.
Exact. Et elle a ensuite appris le plein air aux côtés de Corot pendant de nombreuses années. C'est une artiste extrêmement douée, tout à fait reconnue, comme sa sœur d'ailleurs l'était à son époque. Et donc ses modèles, ce sont des modèles de son entourage dans un premier temps, sa sœur Edma, puis ses
peintre
voisines.
Comme elle.
Peintre comme elle, qui renonce à la peinture après son mariage, ce que Berthe Morisot ne fera jamais. Elle déduira, quelles que soient les difficultés qu'elle ait pu rencontrer dans sa vie, jamais elle ne cessera de peindre.
Donc elle choisit sa sœur dans un premier temps.
Elle choisit sa sœur, ses voisines, sa famille.
Et puis après, quand elle est mère.
Des modèles professionnels. Et sa fille Julie, qui à partir de 1878, la date de sa naissance, devient son modèle de prédilection, bien évidemment.
Alors c'est intéressant, cette qualité d'artiste et de mère. Elles sont peu nombreuses, les femmes peintres de 19e, à avoir eu ce parcours.
Effectivement, elles sont peu nombreuses, et je crois que toute l'originalité de Berthe Morisot, et ce qui fait d'elle finalement un personnage tout à fait actuel, c'est d'avoir su concilier de manière tout à fait harmonieuse une vie d'épouse, une vie de mère et une vie de peintre d'avant-garde. Et si vous voulez, cet équilibre qui semble tout à fait impossible à l'époque, qu'elle arrive pourtant à créer, qui fait d'elle un personnage d'exception.
Alors vous ouvrez l'exposition avec un autoportrait d'elle et de sa fille, justement.
Tout à fait.
Très moderne.
Oui.
Vous pouvez nous le décrire ?
Oui, alors il s'agit en fait d'une toile à peine esquissée qui s'appelle « Autoportrait de Berthe Morisot accompagnée de sa fille Julie ». C'est un grand panneau qui en fait, en quelques coup de pinceau dresse la silhouette de l'artiste et celle à peine qui se devine à peine de sa fille. Le reste de la toile est totalement blanc. En fait, aujourd'hui, la toile a bruni, donc on voit une couleur un petit peu marron. Mais il faut imaginer à l'époque quasiment du ton sur ton, une étude de blanc qui était une des couleurs qui passionnait Berthe Morisot et pour laquelle elle menait de nombreuses recherches.
Alors c'est un tableau qui est moderne aussi par le geste, je trouve.
Exactement.
Parce qu'on sent l'impulsion,
oui.
On sent la rapidité du geste.
Oui.
Comment
les
peignait-elle techniquement
elle, ce qui l'intéressait dans celui-ci, à la même époque, quand elle peint ce tableau en 1885, elle se promène à Paris et elle voit chez Bing une grande estampe japonaise qu'elle décrit. Elle décrit très longuement dans ses carnets, elle parle du geste, elle parle des couleurs, de ces verts profonds que l'on retrouve et qu'elle utilise pour dresser la silhouette, et donc de ces Japonais qui, en l'espace d'un geste, peuvent dresser une silhouette. Et c'est ce qui l'intéresse ici, c'est de faire une peinture en l'espace d'un instant.
Et c'est très frappant dès qu'on entre dans l'exposition, dans le parcours de l'exposition. On a ensuite les tableaux qu'elle copiait au Louvre, qui montrent un peu sa formation. Et puis d'emblée, on a un tableau qui vient des États-Unis,
oui.
Du musée de Cleveland, et qui vraiment procure une très très belle émotion. La peinture de Berthe Morisot, on l'associe souvent justement à la peinture de sa fille, de l'enfance, etc. Là, c'est une peinture en extérieur. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce tableau ? Et parce que justement, à propos de sa technique, j'aimerais que vous rentriez dedans. Entrons dans ce tableau avec vous.
Oui, tout d'abord, c'est vrai que quand on arrive dans l'exposition, on découvre ce tableau qui est un des grands chefs-d'œuvre de Berthe Morisot, qui s'appelle L'ombrelle verte, qui date de 1873. Et si l'on débute sur une peinture d'une telle qualité, c'est que Berthe Morisot, tant qu'elle était dans sa période de formation, insatisfaite de son travail, détruisait son œuvre. Et donc
elle a tout brûlé à un moment.
Ah oui, elle a beaucoup brûlé, beaucoup détruit. Et donc nous avons très peu d'œuvres de la jeunesse de Berthe Morisot. Et à partir du moment où elle commence à être satisfaite, et être satisfaite pour Berthe Morisot, c'est faire une œuvre originale qui n'appartient qu'à elle, elle garde. Et donc, elle garde par exemple ce tableau L'ombrelle verte. Alors le thème de ce tableau est un thème important puisqu'il représente sa sœur Edma. Sa sœur Edma a été sa compagne de peinture pendant plus de 10 ans. Elles ont étudié la peinture ensemble, au Louvre, avec Corot, et elles avaient la même ambition de peintre professionnel. Et quand Edma se marie et qu'elle part vivre à l'Orient, Berthe, comme pour conjurer le sort, fait d'elle son modèle de prédilection, et elle la représente à l'occasion de vacances qu'elles ont passées en Normandie, dans une verte prairie, sur lequel elle est étendue, en train de lire un livre, vêtue d'une grande robe blanche, parsemée d'un motif floral qui reprend celui de la nature.
Est-ce qu'on a là l'exemple de la palette de Berthe Morisot ? Parce qu'elle est beaucoup dans les verts, mais évidemment
oui.
Parce qu'elle peint l'extérieur.
Alors
mais sur ce blanc et vert, c'est quelque chose qu'on retrouve...
C'est quelque chose qui est tout à fait caractéristique, effectivement, de ces années, et particulièrement de ces années 1874, c'est-à-dire du moment où elle expose avec les impressionnistes. Berthe Morisot choisit de présenter cette peinture chez Nadar, à la première exposition impressionniste. Et à cette époque, ce qui l'intéresse vraiment, et ce qu'elle écrit à sa sœur, c'est de représenter une figure dans la nature. Et donc, effectivement, on a cette palette de vert, cette palette de blanc, des couleurs qui sont réduites, mais extrêmement claires, qui la caractérisent bien. Ce qui la caractérise encore plus que cette palette-là, ce sont les effets de transparence qu'elle va développer. Elle travaille la peinture à l'huile comme on travaille la peinture à l'eau, l'aquarelle, pour lequel d'ailleurs elle a d'immenses talents, elle est très très douée dans ce domaine. Et donc ses professeurs qui vont visiter l'exposition écrivent à sa mère en disant « Mais elle fait dire à l'huile ce qui est exclusivement du domaine de l'eau. » Et voilà une des grandes originalités de la peinture de Berthe Morisot. Alors ensuite, bien évidemment, la critique, quand elle découvre cette peinture, est d'une part séduite par la qualité de ce thème, où elle allie le charme de la Parisienne au charme de la nature, et donc y reconnaît une peinture nouvelle, une peinture extrêmement séduisante. mais critique le côté inachevé, rapidement esquissé de l'œuvre en décrivant cette charade de foin qu'elle brosse à coups de quelques coups de pinceau, de la même manière que ses doigts sont à peine vivement brossés. Et donc on dit, ce serait bien quand même si elle dessinait.
Ce qu'elle sait parfaitement faire, puisqu'il y a exposé aussi dans cette exposition qui s'intitule Berthe Morisot, il y a des dessins, des sanguines, des pastels, des lignes de plomb qui sont... extraordinaire.
Oui, oui. Berthe Morisot est une grande dessinatrice. D'une part, il faut rappeler qu'elle a une formation classique et qu'à l'époque, avoir une formation classique, c'est avant tout apprendre le dessin. On commence par le dessin.
Donc, elle fait preuve de volonté et de modernisme en étant impressionniste.
Bien sûr.
Ça, c'est un trait quand même de caractère
bien
très
sûr,
fort
bien
et de
sûr.
Son œuvre qu'on voit éclore là dans des compositions qu'on connaît peut-être un peu moins, qui sont ces grandes compositions de décoration et ces paysages.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ces thèmes-là que vous mettez en valeur dans cette exposition ?
Alors, à la fin de sa vie, Berthe Morisot s'intéresse effectivement à la grande décoration et elle commence à faire des peintures qui sont des peintures de très grand format, ce qui n'était pas le cas auparavant. Elle s'est posée, comme tous les peintres de figures de l'impressionnisme, la question de l'intégrité physique du modèle et celle du dessin. Revenant au dessin, maniant le crayon, multipliant les esquisses, elle entame des compositions d'une complexité nouvelle. Jusqu'à présent, ses peintures se résumaient à des portraits en buste. Quand les personnages étaient présentés, ils se faisaient face. Et avec le dessin, elle multiplie les études. Et donc, il y a une interaction nouvelle entre les personnages qui ne se font plus seulement face, mais qui se chevauchent les uns les autres. Et le cerisier est probablement la composition la plus ambitieuse de Berthe Morisot. Elle en a réalisé 3 versions. Une petite, l'été, faisant poser sa fille et sa nièce. Une version intermédiaire dans son atelier de Paris et une dernière version dans l'appartement qu'elle loue rue Weber en 1891, dont le thème, si vous voulez, est finalement la fusion entre la nature et la figure.
Est-ce qu'elle a fait des séries comme Monet, par exemple ?
Non, elle n'a pas fait des séries comme Monet. D'ailleurs, Monet initie ses séries fort tard, dans les années 90.
Quand rencontre Monet ?
Berthe Morisot rencontre Monet tôt pour la première exposition impressionniste. Elle est proche de tous les membres de l'impressionnisme, mais c'est véritablement... En 1884, à l'occasion de l'organisation de l'exposition posthume pour Eugène Manet, qu'elle se lie d'amitié avec Monet, Renoir, Degas était déjà un intime de la famille, et Stéphane Mallarmé, qui deviennent sa famille de cœur.
Sa famille de cœur, ils ont une correspondance avec Mallarmé qui est très connue.
Oui.
Et puis c'était, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est connu, la belle-sœur de Manet. Je me suis même demandé si le petit ruban là n'était pas un clin d'œil.
Il est évident que les tonalités sombres, et notamment les jeux de noir, rappellent la peinture de Manet. Rappellent la peinture de Manet, et plus largement la peinture des années 1860. Et toute l'originalité de Berthe Morisot, c'est de... d'une part développé au début des années 70, au moment de la première exposition impressionniste, des effets de transparence, et à la fin des années 70, de définir une palette nouvelle, en rupture justement avec la palette de Manet, d'ailleurs Manet éclaircira la sienne, en développant des tonalités argentées, blanche, rose, bleu, qui font toute son originalité et qu'on a souvent mis, à très juste titre d'ailleurs, en lien avec la peinture française du XVIIIe siècle.
Écoutez, merci beaucoup, Marianne Mathieu, de ce parcours sonore de l'exposition donc consacrée à Berthe Morisot au musée Marmottan en Monet et que les visiteurs peuvent découvrir jusqu'au 1er juillet 2012.
Je vous remercie.
Merci beaucoup. Sur le Pont des Arts vous donne rendez-vous en avril autour de l'actualité de l'estampe et de la gravure.